Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie pour ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'avais annoncé lors de notre précédent numéro, la dernière semaine de mars est particulièrement dense en événements musicaux en tout genre. On peut même parler sans exagérer de véritables embouteillages dans les jours qui viennent. Il va falloir faire des choix certains soirs, parfois douloureux, entre une proposition ou une autre. La seconde partie de cette émission est donc très copieuse, vous vous en doutez. Raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir compter aujourd'hui encore sur le soutien de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Parmi les rendez-vous à noter dans les jours à venir, il y a un concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il doit avoir lieu le lundi 31 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines, ce qui nous vaut le plaisir de recevoir la violoniste Éléonore Hepp, membre de l'Orchestre National du Capitole et des Clés de Saint-Pierre. Elle va nous présenter le programme de cette soirée tout à l'heure, lors de l'agenda de Mélomanie. Dans l'immédiat, place comme d'habitude à l'actualité musicale récente, Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue Éléonore Hepp, ravie de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Le premier concert au sommaire de ce retour arrière a été donné par Katia Bugnati-Juvili le 18 mars à la Halle au Grain. Vous l'avez invité le cycle des grands interprètes. Sa prestation était très attendue, comme toujours lorsqu'elle joue à Toulouse. Et d'ailleurs, la halle était quasi comble ce soir-là. Serge, vous étiez dans l'assistance et vous allez pouvoir nous faire part de vos impressions. Rappelez-nous d'abord quelles œuvres la pianiste franco-géorgienne avait mises à son programme.
Bon, elle a joué du Schubert, du Chopin, du Mozart et du Liszt. Et puis alors, je voudrais quand même préciser qu'elle l'a joué sans entracte et sans quitter le parquet de la Halle au Grain. Elle s'est levée pour un salut, puis elle s'est remise au piano. Donc, elle a joué ça vraiment dans la continuité. On peut dire que c'est une pianiste de l'extrême. Elle a des moments complètement divins, avec une émotion formidable qui transparaît, et d'autres, il faut le dire, un peu brouillons quelquefois. Il y a les deux. Donc c'est formidable. Et ça commence avec les quatre impromptus de Schubert, les impromptus de l'opus 90, là, Deutsch 899. Alors le premier, il émerge du silence, c'est très impressionnant. Le deuxième et le troisième de ces impromptus, là vraiment, hein, elle se déchaîne complètement, pour terminer avec une intensité expressive extraordinaire pour le quatrième. Ça a été un des grands moments, justement, de ces quatre Schubert. Et puis ensuite, elle a enchaîné avec la deuxième sonate de Chopin. Même chose. Là, les deux mouvements initiaux, c'est le cataclysme par moment. Et puis alors, la marche funèbre, elle l'a jouée de manière impressionnante, avec une intensité expressive formidable, sans en rajouter, mais avec une beauté esthétique formidable, vraiment excellente. Et puis, alors, contraste très, très solide, si l'on peut dire, avec la sonate de Mozart qu'elle a jouée après, qui est la sonate numéro 16, la fameuse annuette majeure dite sonate facile. Et alors qu'elle joue là, voilà, avec à la fois un tempo vertigineux au début, et puis un andante central, très touchant, plein de tendresse. Et alors, elle a terminé cette sonate en l'enchaînant directement, sans interruption, avec la ballade numéro 4 de Chopin. On peut se dire, c'est un contraste incroyable. Eh bien non, ça marchait très bien. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'était presque logique, donc. Et là, elle a joué cette ballade avec une sorte d'aller et venu entre la rêverie et le délire, un peu. C'était vraiment intéressant. Et puis elle a terminé le programme prévu initialement, avec la Mephistovals numéro 1 de Liszt. Alors là, évidemment, c'était un jeu véritablement diabolique, hein, là, avec un déploiement de virtuosité extrême, là, ce que j'ai qualifié de délire des doigts, en quelque sorte. Elle a eu un accueil enthousiaste du public, on pouvait s'y attendre, hein. Et ensuite, elle a donné deux bis. et deux bis opposés complètement. On retrouve les extrêmes ici dans les bis aussi, puisqu'elle a commencé par la transcription pour clavier de Bach de l'adage du concerto pour hautbois de Benedetto Marcello. Alors c'est un concerto connu de Benedetto Marcello, et l'adage a été transcrit par Bach pour clavier. Elle a joué ça avec une retenue formidable. Et à l'opposé, le deuxième bis, c'était la Rhapsodie hongroise numéro 6 de Liszt. Alors là, avec une énergie frénétique qu'elle a déployée dans ce deuxième bis. Et ça a été très applaudi, évidemment.
Elle a été fidèle à elle-même, j'ai l'impression.
Ah, complètement, oui, oui, complètement.
Fidèle à son personnage aussi.
Oui, oui, elle incarne un personnage. Hein. Dès qu'elle arrive, on voit que ça n'est pas une pianiste réservée qui va jouer dans son coin très, très intériorisée. Non, elle est très, très ouverte et très, très joviale.
Et elle portait une très belle robe sobre.
Magnifique, sobre, exactement. Une robe noire. À paillettes quand même, mais très belle robe. Je sais qu'elle est très connue pour ses tenues aussi. Hein, donc.
Elle est connue pour beaucoup de choses maintenant. Katia Brunati-Gilli, qui est une jeune mère de famille désormais.
Oui.
Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle est un peu plus sobre qu'elle ne l'était peut-être, auparavant.
C'est une artiste très sympathique. Vraiment.
Ah, mais on m'a toujours dit qu'elle était effectivement, humainement parlant en tout cas, quelqu'un de très très agréable et simple. On va l'écouter, la pianiste franco-géorgienne. Dans son programme du 18 mars à la Lograin, il y avait la balade numéro 4 en fa mineur opus 52 de Frédéric Chopin. Nous allons en écouter le début, dans une version enregistrée il y a quelques années par Katia Brunati-Gilli. Balade numéro 4 en fa mineur opus 52 de Frédéric Chopin sous les doigts de Katia Brunati-Gilli. Je rappelle que le prochain concert de la saison des grands interprètes a lieu ce mercredi 29 mars à 20h à la Halle au Grain, où le pianiste sud-coréen Sunwoo Kim joue les concertos numéro 3, numéro 4 et numéro 5 de Beethoven avec l'Orchestre de Chambre d'Europe. Un autre grand moment à venir pour les amoureux du piano. Samedi dernier, également à la Halle au Grain, était donné un concert du cycle Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole. Ce cycle met souvent à l'honneur un instrument ou un pupitre de l'orchestre. Et le 22 mars, c'est le trombone qui était en vedette. Cerise sur le gâteau, il y avait aussi ce jour-là la création mondiale du d'une pièce commandée par l'Orchestre du Capitole et le Florida Orchestra, composé par Thierry Kantz. Un petit événement, Serge, parce qu'il n'est pas si courant d'assister à la naissance d'une œuvre pour trombone et même pour trois trombones.
Exactement, et l'œuvre s'intitule « Tribone ». Alors Thierry Kantz, c'est un personnage extraordinaire, hein, un grand trompettiste, et il a déjà composé une œuvre pour trombone solo et orchestre, mais là, c'était pas un, c'était trois trombones. Mais tout cela était précédé, le concert du 22, le concert Happy Hour, était précédé d'une rencontre autour du trombone qui était organisée à l'INSA. C'était organisé en partenariat avec l'association AIDA, qui soutient et qui sponsorise en quelque sorte l'orchestre et l'opéra du Capitole. Et c'était donné avec la classe de trombone de Daniel Lassalle, qui est donc professeur de trombone au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. On a été accueillis là pour cette rencontre par Laurent Grégoire, qui est connu pour s'intéresser à des tas de
musiques. Il est président de la saison des Quais de Saint-Pierre.
Exactement. Et il est en même temps directeur des filières artistiques de l'INSA. Et puis il y avait Pierre Dagrin, donc président d'AIDA. Il y avait Vincent Loga, le délégué général d'AIDA, qui lui-même joue du trombone d'ailleurs. Et donc nous avons eu droit à une grande discussion autour de l'œuvre de Thierry Kantz avec les trois solistes qui allaient le donner le lendemain, donc dans le concert présenté par AIDA, c'était le 21, et également le concert Happy Hour du 22. Et donc ces trois solistes, c'est Joël Weiss. Joël Weiss a été trombone solo de l'orchestre dans les années 90. Il est maintenant à l'Orchestre de Floride. Et puis Louise Aunois, que l'on connaît bien, ainsi que David Loqueneux, qui sont les deux trombones solistes de l'orchestre. Alors, on a eu droit également, au cours de cette séance, à la présentation du trombone à travers les âges, alors qui a été mené avec à la fois compétence et humour par un grand tromboniste français qui s'appelle Michel Becquet et Daniel Lassalle. Et donc c'était de la sacoboot des temps anciens à l'instrument moderne. Vraiment très intéressant tout ça. Et on a annoncé qu'un album CD de la classe de trombone du conservatoire allait sortir grâce au lien qu'il y a entre la classe et ce qu'on appelle l'atelier des sacoboutiers, qui est une émanation en quelque sorte de l'ensemble de cuivre ancien de Toulouse, les sacoboutiers, l'association AIDA et même le Limoux Brass Festival. Donc il y a ces trois entités qui ont travaillé pour cet album qui va sortir très bientôt. Et puis on a eu donc une démonstration musicale au cours de cette même séance des élèves, les anciens et les récents, de la classe de trombone du conservatoire, qui ont été dirigés successivement par Daniel Lassalle, Michel Becquet et Olivier Lachury, qui est lui professeur au Conservatoire de Toulouse également. Et donc plus de 20 trombonistes sur scène qui ont joué. C'était vraiment spectaculaire et intéressant. Il y avait des musiques de 2001, Odyssée de l'espace, avec Zarathoustra, et puis Pirates des Caraïbes, enfin, des œuvres très réjouissantes. Donc voilà, ça c'était cette rencontre à l'INSA. Et puis le 21 mars et le 22 mars, il y a eu le concert, là aussi, concert avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé par la chef autrichienne Katharina Winkor, qui était invitée pour la première fois à Toulouse. Et donc c'était un programme musical, là aussi, autour du trombone, même si les deux premières œuvres, le trombone était simplement un partenaire important, puisqu'il s'agissait de l'ouverture tragique de Johannes Brahms et la grande Pâque russe de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Alors on a eu des échos de trombone, on sait que le trombone a longtemps été l'instrument de la musique sacrée. Et là, on en a eu vraiment un exemple, surtout avec la grande Pâque russe de Rimsky-Korsakov. On a vraiment bien aimé, et en tout cas ça me concerne, beaucoup aimé la direction de Katharina Winkor, qui était à la fois d'une grande précision et d'un sens des nuances très particulier. Donc c'était vraiment très beau, ces deux pièces. Et puis ensuite, eh bien nous attendions cela avec intérêt particulier, la création mondiale de Tribone, le concerto pour trois trombones et orchestre de Thierry Kantz. On a découvert une écriture très facile à écouter, très séduisante, pleine de couleurs et de contrastes. C'est un concerto en quatre mouvements, avec un premier mouvement qui est un prélude plein de mystère et qui évolue vers l'éclat en quelque sorte, puis une romance à la fois tendre et lyrique. Alors on a l'impression que les trois trombones mènent un dialogue, s'échangent des phrases, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis le troisième mouvement s'appelle Jota. C'est évidemment espagnol, en particulier Le mouvement s'ouvre sur un solo pizzicato de contrebasse, et puis il se prolonge avec l'intervention des castagnettes, donc on est vraiment en Espagne, et c'est très joyeux, de même que le final, qui est à la fois joyeux et plein d'effets comiques. Donc c'était vraiment une belle découverte, et il faut espérer que cette pièce soit redonnée. Il faut trouver 3 trombones, mais... La preuve.
Oui, mais comme il n'y a pas beaucoup de pièces au répertoire pour les trombonistes, je pense que quand il y en a une, ils la jouent en général lorsqu'ils donnent des concerts où leur instrument, comme c'était le cas le 22 mars, est en vedette et est mis à l'honneur.
Voilà. Et ça a été très très bien accueilli par le public. Vraiment, cette œuvre a reçu une belle ovation, à la fois pour les musiciens, la chef et l'ensemble de l'orchestre. Mais la soirée ne s'achevait pas là. Elle se prolongeait avec l'arrivée d'une joyeuse troupe de jeunes trombonistes qui, là, de nouveau, ont envahi le plateau de la Halle aux Grains et qui ont prolongé encore l'animation musicale en grand nombre. J'étais encore une vingtaine, là, donc avec quelques éléments de jazz. Et ça a été vraiment un moment à la fois rare et jubilatoire qui a été salué par un public véritablement galvanisé. La fête du trombone jusqu'au bout.
Eh bien, nous allons réécouter un extrait de la Grande Pâque russe, l'ouverture composée par Nikolaï Rimsky-Korsakov avec son fameux solo de trombone. Le solo de trombone dans la Grande Pâque russe, l'ouverture composée par Nikolaï Rimsky-Korsakov, un extrait du programme du concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole, samedi à la Halle aux Grains, dédié à cet instrument. Fin de cette première partie d'émission, courte virgule musicale, avant de retrouver dans quelques secondes Éléonore Epp et Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous allons commencer cet agenda avec notre invitée du jour, la violoniste Éléonore Epp, qui se produit avec 3 autres de ses camarades des pupitres de corps de l'Orchestre National du Capitole et un pianiste. On va vous révéler son identité dans quelques instants. Donc ce sera pour le prochain concert de la saison Les Clés de Saint-Pierre. Il a lieu lundi 31 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et vous aurez compris que vous allez y entendre des quintettes pour piano et cordes. Le programme est sous-titré « Parfums d'Europe centrale ». Vous allez bien sûr nous présenter les œuvres qui le composent, mais avant, je voudrais que l'on parle de la formation et des musiciens qui vont les jouer, qui sont vos 4 camarades de jeu. Et est-ce qu'il s'agit d'une première pour l'ensemble que vous formez tous les 5?
Déjà, merci en tout cas pour l'invitation. Et oui, effectivement, on est trois collègues de l'Orchestre du Capitole, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et en plus, il y a mon grand frère qui est... un grand pianiste, on va dire. Forcément, pour moi, il sera toujours un grand pianiste. Et il se trouve qu'on se connaît tous depuis très très longtemps, puisque Thibaut et Christy, le super soliste de l'orchestre, se sont connus au Conservatoire de Paris il y a plus de 15 ans. Et ont déjà beaucoup joué ensemble à l'époque. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de les réunir ici pour ce concert, qui sera donc une première pour cette formation tous les 5.
Et les 2 autres, donc, sont...
Le couple Gilles, Pierre et Julia Gilles, violoncelle solo et alto co-solo de l'orchestre, et qui sont un couple superbe et toujours tellement enthousiaste.
Et 2 piliers de l'Orchestre du Capitole, c'est Arnaud et Gilles, j'ai connu depuis que j'ai vu les concerts de l'orchestre.
Ah oui. Ils sont souvent très proches l'un de l'autre, géographiquement d'ailleurs, c'est très bien.
Ça va être amusant parce que nous aurons donc un couple, Juliette et Pierre Gilles, et puis nous aurons une fratrie.
Voilà.
Éléonore au violon et Thibaut Epp au piano. Et donc, Christique Jessy, formidable musicien.
Magnifique, oui, absolument.
Alors, qui a eu l'idée de ce programme de quintette avec piano d'Europe centrale ?
Il se trouve qu'on a déjà beaucoup joué ensemble en quatuor avec Christy, Pierre et Juliette. Et on avait envie de faire un programme pour cette saison des clés. Et le fait d'avoir un frère pianiste m'a dit, ben, je me suis dit, bon, ben, peut-être que ce serait une bonne idée d'essayer de nous réunir pour ces beaux quintettes. Et Dvorak s'est imposé assez rapidement, vu qu'on aime beaucoup cette musique tous les cinq.
Donc il y aura le quintet pour piano et cordes numéro 2 d'Antonin Dvorak. Alors celui-ci, il est vraiment connu. Est-ce que vous avez vous-même ce goût pour cette musique d'Europe centrale, pour ces œuvres-là, ces œuvres de musique de chambre, de Dvorak, de Janáček, de gens comme ça, de Bartók?
Oui, je pense que moi, personnellement, j'ai pas mal joué de Dvorak en musique de chambre, particulièrement les trios, le quintet, le quatuor, évidemment l'américain, je l'ai beaucoup joué.
Et c'est peut-être celui qu'on entend le plus, je crois, au concert de Dvorak.
Forcément, c'est celui qui est le plus facile à écouter et le plus donné, oui, c'est sûr. Et puis, étant donné que j'ai un grand frère pianiste, et ben justement, je l'ai beaucoup entendu à la maison aussi. Oui. Donc forcément, ça s'est imposé assez facilement.
Alors, on va parler de l'autre œuvre, parce qu'il y en a deux, hein, quintette pour piano et cordes au programme de ce concert du 31 mars. Mais avant qu'on en parle un peu plus en détail, nous allons écouter un extrait donc, du premier que vous allez jouer, ce quintette pour piano et cordes numéro 2, opus 81, en la majeure d'Antonin Dvorak. Il s'agit du deuxième mouvement Andante con moto, appelé aussi Dumka. Le deuxième mouvement, Dumka, du quintet pour piano et cordes numéro 2, opus 81, en la majeure d'Antonin Dvorak. La première pièce au programme de votre concert du 31 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines. Une œuvre de la maturité pour le grand compositeur tchèque, puisqu'il a 46 ans lorsqu'il écrit en 1887. Et c'est donc une des pièces les plus connues pour ce genre de formation. Ce mouvement, Dumka, vous pouvez peut-être raconter la petite histoire, pourquoi il s'appelle, on l'appelle aussi Dumka.
Dumka, parce que ça vient d'une balade ukrainienne. Il faut savoir que Dvorak aimait beaucoup tout ce qui était folklore tchèque, et en l'occurrence toutes les musiques du folklore. Et donc ça vient assez souvent dans son travail d'avoir des berceuses ou des musiques folkloriques qui reviennent. Et en l'occurrence, celle-là vient d'une balade ukrainienne, la Dumka, et qu'il a aussi utilisée dans son trio, le Dumki Trio.
Oui, le Dumki Trio, le numéro 4.
Oui, absolument, qu'on a déjà joué aussi avec mon frère.
Bon, on a entendu, là, le son est magnifique, et puis il y a des effets instrumentaux enfin, très, très nombreux, très divers. Bon, c'est une œuvre de toute beauté, je pense que pour les quintettes, pour piano et cordes, c'est peut-être le plus beau, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y en a beaucoup, des quintettes qui sont vraiment magnifiques, Brahms, Dvorak, évidemment. Après celui-ci, je pense qu'il fait la part belle à chaque instrument. Vraiment, chaque personne a un magnifique rôle à jouer dans ce quintette, donc c'est sûr que c'est assez valorisant et vraiment magnifique à jouer.
Il est difficile à jouer,
comme par rapport à d'autres, je veux dire. Bah, comme tous les quintettes, oui. Je ne sais pas s'il est plus difficile que Brahms, par exemple, mais en tout cas, oui, il y a une difficulté. Après, ça dépend si on s'entend bien, si on se connaît bien. En général, ça marche plutôt bien.
Et là, on peut penser que ça va bien marcher. Alors, la seconde œuvre au programme du concert du 31 mars, c'est le quintet pour piano et cordes numéro 1 en do mineur d'Ernst von Donani. Alors, voilà un compositeur très peu connu du grand public qu'il va falloir nous présenter. Il est, par rapport à Dvorak, plus jeune. C'est une génération d'après.
Il est plus jeune, mais en même temps, ce quintet, il a été composé en 1914, donc après, bien après, et il est hongrois. On va dire que le point
Alors,
commun...
Alors attendez, c'est le second qui est composé en 1914. Le premier est composé en 1895, il me semble. Celui que vous allez jouer.
Ah, vous êtes sûr ?
Ah oui, il me semble.
Ah bah alors je me suis trompé.
C'est une œuvre de jeunesse, là, vraiment, le numéro 1 de Donani.
Oui, le numéro 1, parce qu'il y en a deux aussi, comme Dvorak, où ils en ont fait deux, tous les deux. Et en l'occurrence, effectivement, lui, il est hongrois. Et comme Dvorak, ils aiment bien tout ce qui est musique traditionnelle, on va dire, de folklore aussi traditionnelle. Et donc, il en utilise également beaucoup dans son quintet. Après, il est quand même très différent, ce quintet de Dvorak, parce que c'est presque une œuvre concertante pour le piano, finalement. Et oui, la partie pianistique est assez majestueuse, on va dire, on peut le dire. Et
il était pianiste à la base, Danaïs, ceci expliquant sans doute cela. Donc,
Ouais, en même temps, les quintettes ont souvent la part belle au piano.
Oui, au piano, oui, parce que c'est l'instrument central. Tout
oui.
Et donc, le quatuor joue un peu le rôle d'un orchestre. Là.
C'est un peu ça, exactement. On joue le rôle de l'orchestre qui soutient, qui essaye de mettre en valeur le piano. Et,
Et Donani, pianiste donc, et compositeur hongrois, né à Bratislava, donc en Slovaquie, à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Mais après, la famille, les descendants ont essaimé en Allemagne. Et donc, il y a un très grand chef aujourd'hui, Christoph von Donani. Je crois qu'il a 95 ans maintenant, hein, mais qui est toujours de ce monde, et qui est le petit-fils,
oui.
Très grand chef, hein, donc grande famille de musiciens. Les Donani, donc œuvre de jeunesse cette fois-ci, contrairement à Dvorak, œuvre de la maturité. Est-ce qu'elle présente des difficultés, celle-ci, dans l'interprétation, notamment pour le quatuor par rapport au pianiste ?
Oui, justement, dans ce concept de mini-orchestre, on va dire, qui soutient le piano, on a ce rôle un petit peu bancal des fois, de vraiment coller à la partie pianistique, qui est d'une grande difficulté, et qui est très fournie aussi, et de justement arriver à sortir quand même les quelques thèmes qu'on peut avoir et qui sont magnifiques, pour les mettre en valeur face à la richesse pianistique qu'il y a derrière.
Alors pourquoi vous avez choisi celui-ci pour l'accoler au Dvorak ? Parce qu'il y en avait d'autres, vous avez cité celui de Brahms. C'était peut-être aussi parce que c'est une des vocations d'Éclat de Saint-Pierre de faire découvrir aussi des compositeurs au public.
Exactement, c'était le but de découvrir aussi pour nous hein, autre chose que les grands classiques de Brahms, de Dvorak, de Schumann. Et puis face à une œuvre tellement imposante que Dvorak, on voulait quelque chose aussi d'un peu plus frais peut-être, un peu plus inconnu pour pouvoir le présenter au public.
Vous connaissiez, vous, Serge, ce quintet de Donani ?
Pas du tout. Je dois avouer mon ignorance. Oui, absolument pas. Je connaissais peut-être d'autres œuvres. J'ai entendu de la musique de Donani.
Il me semble qu'on a déjà entendu de la musique de Donani.
Oui, oui.
Je
ne
sais pas
oui,
si
oui.
C'était au clé, peut-être bien.
On en a entendu ici
il
n'y
a pas si longtemps, d'ailleurs. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus à quelle occasion.
Mais sinon, ce quintet, moi, je le découvrirai ce soir-là, donc avec grand plaisir.
Ben, c'est à nos grands plaisirs d'aller au Clé Saint-Pierre pour découvrir notamment des œuvres et même parfois des compositeurs.
Oui.
Et les compositeurs, enfin, on voit les noms, on dit lui, inconnu au bataillon. Et c'est vrai, c'est cette curiosité des musiciens vient titiller la nôtre.
Oui.
Et c'est toujours très, très agréable. Voici un extrait du premier mouvement Allegro du quintet pour piano et cordes numéro 1 en do mineur d'Ernst Erno, je crois que c'est Erno qu'il faut dire normalement en hongrois, von Donani. Thank you. Le premier mouvement Allegro du quintet pour piano et cordes numéro 1 en Do mineur d'Ernst von Donani. La seconde œuvre au programme du concert des Clés de Saint-Pierre donné par Éléonore Epp et ses quatre camarades lundi 31 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Concert, vous allez donc aussi pouvoir entendre le quintet pour piano et cordes numéro 2, opus 81 d'Antonín Dvořák. Avant cela, il y a d'autres rendez-vous à noter sur vos agendas. Alors que les représentations de Norma commencent au Capitole le 26 mars et vont se poursuivre jusqu'au 6 avril, il y en a 9. Vendredi 28, à la Halle aux Grains, et à 20h, il y a un concert de l'Orchestre National du Capitole, pour lequel nous allons avoir le plaisir de retrouver l'excellent violoncelliste Jean-Guillain Queyras, aux côtés de l'ensemble symphonique toulousain, un musicien que nous n'avons pas entendu à Toulouse depuis pas mal d'années, Serge. Et puis, il y a des changements dans le programme de ce concert, et également dans sa direction, puisque ce n'est pas Riccardo Minassi qui va tenir la baguette ce soir-là, il a dû déclarer forfait pour des problèmes de santé.
Et oui, lui aussi, donc, c'est arrivé
à Tarmo Peltokoski.
Rappelons tout de même que l'orchestre est de retour d'une grande tournée en Allemagne, alors qu'il avait commencé à la Philharmonie de Paris, et puis qui s'est poursuivi en Allemagne avec Berlin, Dortmund, Freiburg, Hambourg, Cologne, Düsseldorf. Donc, on a une belle tournée, et donc on les retrouve là pour ce concert, qui cette fois sera dirigé par le chef suisse Thierry Fischer. Et donc le programme est modifié, il y aura l'ouverture de l'opéra La Clémence de Titus, ça c'était prévu, de Mozart, donc ça s'est maintenu. Et puis ensuite, Jean-Guillain Queyras jouera en soliste le concerto pour violoncelle et orchestre de Robert Schumann, une œuvre bon, très célèbre pour le violoncelle. Et puis l'une des moins jouées des symphonies de Beethoven, la symphonie numéro 8, paradoxalement, elle n'est pas aussi jouée que les symphonies impaires.
Mais ça, c'est les
c'est très bizarre.
Le drame des symphonies de Beethoven. Oui. Les impaires sont toutes jouées, même la une, finalement.
Mais oui.
Mais alors, les pairs, à part la, quand même la pastorale, la 6,
oui, à part la pastorale,
est jouée.
Oui, bien sûr.
Mais les autres.
Eh oui, rarement. C'est et donc
curieux.
Là, enfin, nous entendrons la 8e, une symphonie joyeuse, une belle symphonie. Donc, ça sera pour terminer ce concert donc, en 3 étapes.
En fait, le seul changement au programme, c'est le concerto pour violoncelle, hein, puisque
oui,
les deux autres œuvres étaient bien prévues.
Étaient déjà prévues.
Mais ce qui devait être joué comme concerto violoncelle, c'était celui de Kraft.
Eh oui, on allait découvrir.
Alors,
là,
on est un peu déçu de ne pas pouvoir entendre cette œuvre baroque, parce que tout le monde veut dire, mais Kraft, qui est-ce? C'est un contemporain de Bach. Enfin, voilà, c'est un compositeur baroque.
Ouais.
Et donc, on passe d'un concerto pour violoncelle baroque à un concerto pour violoncelle romantique.
Exactement.
Alors, qui est peut-être plus dans le mood, si je puis dire, des deux autres œuvres, mais
oui,
toujours
oui,
est-il
oui,
qu'on n'aura pas le plaisir de découvrir ce concerto de Kraft que Jean-Guillain Queyras a enregistré. Hein.
Ah,
pour ceux qui voudraient l'écouter, ça se trouve sur YouTube. Je le disais, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Jean-Guillain Queyras, en tout cas avec l'orchestre.
Oui, oui. Mais c'est un grand violoncelliste, vraiment, qu'on a eu beaucoup de plaisir à écouter ici à Toulouse. Sachez qu'il est né quand même à Montréal.
Oui, et il est franco-québécois.
Et qu'il a été violoncelliste soliste de l'ensemble intercontemporain tout de même.
Oui.
C'est un musicien complet.
On l'avait vu et entendu en 2018, en janvier 2018, aux côtés d'Alexandre Tarot.
Ah oui, oui.
À la saison des Arts Renaissants. Il nous avait joué des sonates pour piano et violoncelle.
Oui, oui.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble qu'on y était d'ailleurs tous les deux. Janvier 2018, c'est pas si vieux, mais par contre avec l'orchestre, il a joué avec l'orchestre du Capitole.
Oui, absolument, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais il a un répertoire très large, hein, vraiment,
oui,
hein,
oui.
Puisqu'il joue beaucoup, alors il joue du Haydn, de Bach à Haydn, Dvorak, et puis des œuvres Bartók, Britten, jusqu'à des compositeurs comme Ivan Fedele, Gilbert Ami, Bruno Mantovani. Il est vraiment très éclectique dans son répertoire.
Alors, comme on ne le voit pas souvent à Toulouse, il ne faut pas rater l'occasion d'aller l'écouter. Vous serez dans l'orchestre, Éléonore ?
Absolument, j'y serai.
Et vous vous réjouissez de jouer avec Jean-Guillain Queyras ?
Ah oui, j'ai pu l'accompagner plusieurs fois. C'est un grand violoncelliste, c'est toujours un plaisir de l'accompagner.
Ouais, ouais. Et je crois en plus que c'est un garçon très sympathique, donc ce qui ne te gâche rien. Il faut qu'on écoute le beau violoncelle de Jean-Guillain Queyras dans une interprétation du concerto de Schumann. C'est le premier mouvement Allegro, Nicht zu schnell. Pas trop vite, et Jean-Guillain Queyras est accompagné ici par le Freiburger Baroque Orchester. Le premier mouvement Allegro, Nicht zu schnell, du concerto pour violoncelle de Schumann, interprété par Jean-Guillain Queyras dans cet extrait d'un enregistrement avec le Freiburger Baroque Orchester. Le violoncelliste joue donc cette même œuvre vendredi 28 à 20h à la Halle au Grain avec l'Orchestre National du Capitole placé sous la direction de Thierry Fischer, dimanche 30 mars à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avant-dernier concert de la saison Toulouse Guitare qui reçoit le duo de choc formé par Agnello Desiderio et Zoran Dukic. On connaît le croate Serge hein, parce qu'il s'est produit à Toulouse Guitare mais en solo. Il y a 3-4 ans, je crois que c'était 2021. En revanche, c'est une première à Toulouse pour l'Italien. Alors voilà un tandem d'exception qu'il ne faut pas rater parce qu'on a affaire là, tout simplement, à deux des plus grands guitaristes de la scène internationale classique.
Absolument. Donc Thibaut Garcia a eu beaucoup de chance et de plaisir de pouvoir les inviter à venir.
Il connaît Zoran Dukic depuis 10 ans, m'a-t-il dit, parce qu'il avait fait une masterclass avec lui à l'époque où il était encore étudiant.
Ah oui. Et donc, bon, c'est un duo de poids, on peut dire. Hein.
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
N'est-ce pas ?
Ce sont des bons vivants.
Des bons vivants, exactement. Et puis, ils vont jouer un programme extrêmement varié, avec du Piazzolla, du Granados, Albéniz, Rodrigo, et puis deux compositeurs contemporains, Stephen Goss et Sergio Azzad, le Brésilien. Donc, c'est vraiment un concert qu'il ne faut pas rater, avec... En outre, une première partie, comme d'habitude, offerte à un jeune musicien en formation. Et il s'agit là de Aimé Vu, qui est un ancien élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et qui poursuit actuellement une carrière tout à fait prometteuse au sein du conservatoire de Paris. Je trouve que cette tradition est excellente de faire une première partie pour vraiment que les jeunes musiciens affrontent un public.
Et Aimé Vu, on a vu Aimé.
On l'a vu,
oui. En 2021 déjà, hein.
Oui,
il
avait
fait une première partie, à l'époque je pense qu'il était encore élève à Toulouse.
Oui, voilà, c'est
ça. Depuis donc il a intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et on va pouvoir le retrouver alors dans un programme, je ne sais pas ce qu'il va jouer,
ça sera la
surprise, mais... Oui. On est impatient à chaque fois de les retrouver quelques années après,
ceux qu'on
a découverts à Toulouse Guitare, parce qu'on voit toute la progression, l'évolution dans leur jeu. Et parfois c'est impressionnant.
Ah, tout à fait. Il y en a certains dont on observe l'ascension, en quelque sorte, hein, dans le domaine artistique et technique. Donc, c'est très, très bien.
Voilà, donc Aimé Vu en première partie de ce concert du 30 mars. Mais c'est lui qui commencera à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Mais nous allons bien sûr écouter l'extraordinaire duo Desiderio Dukic dans cette émission. Ça va être dans l'interprétation d'une pièce d'Isaac Albéniz qui a pour titre « Mallorca ». Thank you. Mallorca, très jolie pièce d'Isaac Albéniz, composée originellement pour le piano et interprétée à deux guitares par Agnello Desiderio et Zoran Dukic. Elle est au programme de leur concert du dimanche 30 mars à 17h. Il faut remercier la saison Toulouse Guitare de nous proposer ce concert et de nous permettre d'entendre ces deux magnifiques musiciens. Ne ratez pas cette occasion. Et enfin, le mardi 1er avril, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais à 20h, dernier concert de la saison 24-25 des Arts Renaissants, qui reçoit la soprano Patricia Petitbon, accompagnée par l'ensemble Amaryllis, fondé et dirigé par Héloïse Gaillard. Le programme est intitulé « Destin de Reine ». Serge, quel en est le concept et qu'est-ce qu'on va y entendre ?
Eh bien, on va y entendre des portraits de trois reines. D'abord, la Queen Mary, donc, avec des extraits de « Fairy Queen » d'Henri Purcell. Puis Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre, avec alors un double programme, quelques pièces d'Henri Purcell, et puis, ce sera à Toulouse au moins une création, de Thierry Esquèche, le grand compositeur, né en 1965, je le rappelle, sur un poème d'Olivier Py, et ça s'appelle « Cantate tombeau pour Aliénor ». Ça a été créé en 2023, hein, en avril 2023.
Ce sera une première à Toulouse, mais la pièce a été créée déjà il y a...
Donc, une œuvre très contemporaine. Et puis ensuite, la troisième reine en question, c'est Agrippine la Jeune, c'est-à-dire c'est la mère de Néron et la sœur de Caligula.
Voyez, oui, avec... elle est bien encadrée.
Hein, oui, tout à fait. Avec des pièces de Handel, avec des extraits de concerto pour hautbois, de l'opéra Agrippine, puisqu'il a composé un opéra sur cette fameuse reine, puis d'une sonate en trio en sol mineur, et d'une cantate également, donc Agrippine. Trois grandes reines qu'incarnera Patricia Petitbon.
Comme elle sait le faire.
Comme elle sait le faire, oui, avec cet esprit piquant qui est le sien, donc ça promet.
Et puis l'ensemble Amaryllis, c'est
un ensemble
excellente
magnifique.
Formation, vraiment. Hein.
Voilà, avec Héloïse Gaillard qui le dirige, mais qui joue aussi de la flûte à bec et du hautbois.
Hein. Oui, oui, oui. Donc c'est la sœur d'Ophélie, la violoncelliste, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, une autre fratrie de grands musiciens, oui, de grandes musiciennes en l'occurrence.
Exactement.
Et bien voici Patricia Petitbon qui chante The Plaint, air extrait de l'opéra The Fairy Queen d'Henry Purcell. Elle est accompagnée par l'ensemble Amaryllis, dirigé par Héloïse Gaillard. Thank you. The Plaint, un air extrait de l'opéra The Fairy Queen d'Henry Purcell, chanté par Patricia Petitbon, accompagnée par l'ensemble Amaryllis, une chanteuse et une formation que vous pouvez retrouver à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 1er avril à 20h pour le dernier concert de la saison 24-25 des Arts Renaissants. Le programme est intitulé Destin de Rennes et la billetterie est en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. De très nombreux rappels avant de conclure cette émission. Tout d'abord, concernant le concert que donne le pianiste sud-coréen Sun Woo Kim avec l'Orchestre de Chambre d'Europe ce mercredi 26 mars à 20h à la Halle au Grain. Dans le cadre du cycle des grands interprètes, il va jouer les concertos numéro 3, numéro 4 et numéro 5 de Beethoven. Les billets sont disponibles sur le site www.grandsinterprètes.com. Je rappelle aussi les 9 représentations de Norma, l'opéra de Bellini, au Théâtre du Capitole du 26 mars au 6 avril. C'est a priori complet, mais il reste peut-être des places pour certaines représentations. Je vous invite donc à vous connecter au site www.opéra.toulouse.fr. D'autre part, je signale que le spectacle musical Piano en forme de poire, inspiré de la vie et de l'œuvre d'Éric Satie, est créé par la comédienne Muriel Benazeraf et les pianistes Stéphane Delinca et Stéphane Escoubet du 28 au 30 mars au Théâtre du Pavé. Les places sont à réserver et à acheter sur le site www.théâtredupavé.org. Vendredi 28 mars à 20h, l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Thierry Fischer, accompagne Jean-Guillain Queyras dans l'exécution du concerto pour violoncelle de Schumann, lors d'un concert au programme duquel on trouve aussi l'ouverture de la Clémence de Titus, l'opéra de Mozart, et la symphonie numéro 8 de Beethoven. Billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Samedi 29 mars, l'orchestre du Conservatoire de Toulouse, dirigé par Christophe Millet, donne deux concerts à 15h et 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. La violoniste Manon Galli va jouer à leur côté le concerto de Sibelius et vous allez aussi pouvoir y entendre le prélude d'Attila de Verdi et la symphonie numéro 6, la pathétique de Tchaïkovski. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Renseignements sur le site www.conservatoire.toulouse.fr. Dimanche 30 mars à 17h, également Saint-Pierre-des-Cuisines, avant-dernier concert de la saison Toulouse Guitare, qui a invité le prestigieux duo formé par Agnello Desiderio et Zoran Dukic. Billetterie en ligne sur le site www.toulouseguitare.fr. Et je rappelle enfin lundi 31 mars à 20h, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, l'avant-dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, auquel participe notre invité Éléonore Hepp. Programme de quintette pour piano et cordes intitulé Parfums d'Europe centrale. Vous pouvez réserver et acheter vos places sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé ce numéro avec moi. Et merci bien sûr à Éléonore Hepp, l'invité d'honneur de cette émission réalisée par Jonathan Botello. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Merci à vous tous de votre fidélité à Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous et bon courage pour choisir vos concerts.